Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission Ouvrons le débat qui chaque mois vous propose un thème en discussion et ce mois-ci nous avons choisi de parler de Marie, la Vierge Marie et le culte marial dans les différentes confessions, c'est-à-dire j'avais prévu que ce soit une émission œcuménique avec la présence autour de la table du père Roger Willem, prêtre mariste, de madame Judith Doré, donc, qui représente l'Église protestante unie, et il devait y avoir le père Jean-Claude Pentier, prêtre orthodoxe, qui malheureusement, à cause d'un empêchement de dernière minute, ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Nous essaierons de lui réserver un temps d'émission à part, et j'ajoute à notre table Monsieur Paul Rodier, qui est diacre catholique, et chargé des relations avec l'islam. Et paradoxalement, la dévotion des chrétiens pour la Vierge Marie reste un sujet de discussion dans les relations œcuméniques, car les points de vue sont différents dans les trois confessions. Et il faut bien dire que même au sein de l'Église catholique, il y a des tendances diverses. Pour les uns, la place donnée à Marie semble excessive, alors que pour d'autres, au contraire, on en fait et on n'en dit jamais trop pour célébrer et prier la Vierge Marie. Nous allons donc ce mois-ci essayer de comprendre pourquoi ces différences et essayer peut-être de contribuer à poser quelques fondations pour une unité plus grande des chrétiens autour de Marie, Mère de Dieu. Et donc peut-être plus largement, pouvons-nous espérer aider les relations interreligieuses? Je voudrais revenir donc cette fois-ci sur la question de Marie comme héritière de la loi juive, parce que l'évangile de Luc la présente quand même un petit peu plus en détail que les autres évangiles et nous montre une femme qui se déplace dans les pèlerinages à Jérusalem, ce qui n'était pas une obligation. Elle le fait, c'est certainement par ferveur personnelle. Les femmes, en général, restaient à la maison. Donc, et on montre qu'elle satisfait aux obligations de la loi par les sacrifices de deux tourterelles. Le sacrifice des familles pauvres n'avait pas de grands biens, mais elle satisfaisait à la loi juive. Et le simple Magnificat, alors les Magnificat de Marie, nous montre que chaque verset... Finalement, je ne rentre pas dans le détail, mais à peu près chaque verset qu'elle chante est un extrait de l'Ancien Testament, ce qui tend à montrer qu'elle connaissait les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, du judaïsme primitif, je ne sais pas comment dire, mais d'Israël, elle était la fille d'Israël, et ce qui est même étonnant parce que, si je ne me trompe pas, les femmes n'avaient pas accès à l'étude. Comment connaissaient-elles tous ces textes,
hein? Le Magnificat est une belle louange de la tradition juive. Ça vient.
Mais elles connaissaient par cœur.
Oui, mais les Juifs texte. Connaissent par cœur. Là.
Oui, mais les Juifs, eux, ne lisaient pas.
Oui, mais elle était au temple.
Ça, c'est apocryphe, non?
Non, dans le... Quand, C'est pas dans les évangiles apocryphes le fait que la Vierge Marie était au temple au début.
C'est dans le proto-évangile de Jacques. C'est là que je me rends compte à quel point notre foi catholique est imprégnée de para-évangiles.
Imprégnée
de para-liturgie, de para-évangiles, des apocryphes, parce que Marie élevée dans le temple et tout ça, c'est vraiment l'évangile de Jacques, le proto-évangile de Jacques.
Et c'est le Coran aussi.
Mais oui, donc, alors moi je pense que ce texte aurait eu intérêt à ne pas être mis dans les apocryphes, si je peux dire. Dans la mesure où il a eu un tel écho sur la foi des chrétiens, tout le monde imagine Marie tissant dans le temple, la pourpre, les icônes. Si le père Jean-Claude avait pu être là, il nous dirait bien qu'on la voit tisser la pourpre dans le temple. Et donc... En tout cas, ça veut dire que c'est une héritière de la foi d'Israël une espèce de perfection de mémoire qui lui fait ressurgir les paroles de sa tradition dans le Magnificat. Quand on chante, nous, le Magnificat, on ne pense pas à l'Ancien Testament.
C'est la prière de la mère de Samuel aussi. Mmh. C'est la même prière.
C'est très ressemblant, oui. C'est vraiment la fidélité à la tradition. Alors, quel est le rapport, justement, entre l'Ancien Testament et ce qu'on appelle aujourd'hui la mariologie? Je crois que nous n'avons malheureusement pas de spécialiste avec nous pour la mariologie, mais on étudie la Vierge.
Ben, on en parle dans Isaïe, quand on voit les lectures qu'on voit à l'heure actuelle, qui précèdent Noël dans Isaïe. On parle bien de cette Vierge qui va donner naissance à un fils qui viendra, le dit bien dans l'Ancien Testament.
On associe ça, cette Vierge d'Isaïe, on l'associe à Marie.
Tout à fait.
Bien que ça ne soit pas effectivement directement nommé.
Oui, il n'y a pas de mariologie sans référence à la Première Alliance, à l'Ancien Testament. C'est impensable. D'où les déviations qu'il y a eu. En piété mariaque ne se référant pas à la parole, à l'écriture.
Oui, je pense que c'est un garde-fou.
Par exemple, le Magnificat n'a pas été compris par les catholiques au milieu du siècle dernier. Maurras interdisait le chant du Magnificat, qui est un chant révolutionnaire.
Tout à fait.
Oui, absolument, oui.
Et ce chant révolutionnaire, je pense à cette femme que j'admire presque tous les matins. Je ne la rencontre pas chez moi, mais c'est dans mon esprit, je l'admire. Elle s'appelle Etty Hillezoum. Oui. Vous la connaissez peut-être
de réputation.
Enfin, quand je dis ça, c'est pas toujours sûr, mais sur mes contemporains, beaucoup ne la connaissent pas. Beaucoup ne la connaissent pas. Hein. Dans la maison de retraite où je suis, évidemment, Etty Hillezoum, c'est pas connu. Déjà, Marie n'est pas connue.
Oui.
Mais alors, cette Etty Hillezoum disait en particulier, s'effacer, ça existait encore un peu plus. Vivre la vie tous les matins, à l'accueillir dans sa beauté et dans ce qu'il y a d'unique, c'est quelque chose d'étonnant. Et elle me faisait penser à Marie, c'est ça, cette attitude fondamentale à travers les psaumes, à travers tous ces hymnes que l'on trouve dans la Première Alliance et qui nous font découvrir l'aujourd'hui de cette parole. C'est pas du passé, c'est un maintenant, maintenant à l'heure de notre mort. Nous tenons en main notre temps, notre présent et notre avenir.
La question quand même délicate, c'est l'intercession de Marie dans la foi des catholiques. Est-ce qu'elle conduit vraiment vers le Christ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'arrêter à Marie pour la prière, par exemple? Alors que Jésus n'a pas donné d'indication « prier Marie ». La seule indication de la prière dans le Nouveau Testament,
c'est de notre Père.
Donc, est-ce qu'on ne se limiterait pas à ça? Pourquoi prier Marie? Parce qu'il y a le risque d'oublier Jésus. Et d'oublier le Père encore plus.
Dans les religions populaires, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a besoin d'intercesseurs. Sachant que le seul intercesseur possible, c'est le Seigneur, c'est le Christ par rapport au Seigneur. Mais dans la religion populaire, il y a besoin de saints, parce que les gens se trouvent trop petits par rapport aux grands saints, et donc ils ont besoin, entre guillemets, de petits saints qui leur permettent d'aller vers. Ce qui ne serait pas bien, ça serait qu'ils se contentent de prier ce saint. Mais si ce saint est le chemin pour prier Dieu...
Oui, mais c'est le « si » qui me pose question.
Mais il y avait gens, on a besoin de ponts, on a besoin on peut avoir une communication directe avec le Seigneur, mais on peut aussi concevoir que certains ont besoin de filtres. Tout le monde n'est pas au même niveau. Et la religion populaire, c'est un peu ça, la religion populaire, c'est les saints qui sont vénérés dans le cadre de la religion populaire, c'est de faire comprendre que ces saints ne sont qu'un chemin vers et non pas le but. Si le but était de prier ce saint, la prière ne serait pas, n'aurait rien d'efficace. Mais si c'est un chemin pour prier le Seigneur qui est, lui, l'objet de notre prière, c'est bien tout ce qui est dans la religion catholique, la religion populaire, c'est ça dans la religion catholique. C'est pas prier le saint, mais c'est prier Dieu par l'intermédiaire du saint. Parce que la religion populaire, bah, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, depuis les origines.
Mais oui, oui, non, mais
en c'est, faisant c'est attention que ça ne devienne pas, que ça ne devienne pas
une espèce de religion de superstition.
Une religion de statut, une religion, vous voyez ce que je veux dire, d'image, à savoir.
C'est le risque. Il y a eu une période, au début des années 60, où on a quand même pas mal prêché la démythe. On a enlevé les statues dans les églises, etc.
Et on a pu dire, du reste, que l'église catholique était devenue protestante.
Allez-vous promener dans les rues de Marseille. La Bonne Mère est connue de tout le monde.
Tout à fait.
La Bonne Mère, on sait ce que c'est. C'est là-haut, il faut monter. Il faut monter pour aller au sanctuaire, mais il y a cette idée qu'il faut monter soi-même. Il y a une montée en soi. Les gens le savent. J'ai eu l'occasion d'aller à Marseille à plusieurs reprises. J'ai découvert cela. Encore récemment, j'ai fait des obsèques ici à Chartres. Et il y avait parmi les assistants un homme qui a joué de l'orgue et qui était de Marseille. Et il m'a dit, vous savez, depuis que je suis à Marseille, il était là depuis 20 ans à Marseille, je suis devenu chrétien. Alors je lui ai demandé pourquoi et comment. Eh bien, parce que j'ai rencontré Marie à travers les gens de Marseille. Et alors, Marie m'a fait découvrir petit à petit l'évangile, quelques paroles importantes qui ont changé ma vie. C'était ça sa vie. Sa vie était changée par le qu'en dira-t-on, en quelque sorte, par la rumeur positive qui fait que des gens découvrent ce qu'ils sont. Alors qu'il l'ignorait avant.
Oui, oui, la présence, comme vous disiez. Mais comment ça marche dans le protestantisme, alors le rapport à Marie et la prière, est-ce qu'on prie Marie?
Pas du tout. Non, Marie est notre sœur en humanité. Elle est évidemment la mère du Christ. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, le Christ n'appelle pas par son nom, mais elle est désignée par femme ou... Elle est la mère de
Christ. C'est ton fils.
Voilà. Donc, nous, ça fait partie aussi de la réforme de la sacerdoce universelle. On n'a pas besoin d'autres intermédiaires pour avoir accès à Dieu. Et on ne monte pas, on ne cherche pas à grimper jusqu'au ciel. Dieu est venu à Bethléem, au-devant de nous, il descend vers nous. Et donc, on prie Dieu, on a accès à Dieu par le Christ. Et Marie est vraiment notre sœur en humanité.
C'est une présence à vos côtés, plutôt.
Oui, et je pense que les églises de la Réforme s'entêtent à préciser que Marie et l'Église sont du côté des humains, face à Dieu et à sa parole. L'Église aussi est une institution humaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'Église catholique. Et pour nous, il est important que Marie soit notre sœur, qu'elle a dépassé nos déterminismes aussi. Elle était une jeune fille juive qui a été donnée en mariage, promise en mariage à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et elle a accepté la volonté de Dieu et la manifestation de Dieu dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle est importante pour nous comme témoin de l'acceptation de la volonté de Dieu dans nos vies. Mais elle est vraiment notre sœur en humanité. Et c'est son côté.
La prière de l'ange à Marie ne fait pas partie de votre répertoire de prières.
Si, Magnificat. Oui. Non. Ah non, la prière. Si, tout ce qui est biblique. Tout ce qui est biblique fait partie de nos prières.
La visite de l'ange Gabriel se fait reconnue dans le protestantisme.
Absolument.
Oui. L'ange Gabriel dit bien Je te salue, Marie.
Tout à fait. Pleine de grâce.
Comblée de grâce. Oui. Et c'est cette comblée de grâce qui a donné. Suite finalement au dogme.
Mais ça suffit, comblée de grâce, ça suffit. Elle n'a pas besoin d'être particulièrement pure en plus. Elle n'a pas besoin d'immaculée conception.
Alors l'ange Gabriel est aussi un lien avec l'islam.
Bien sûr, mais l'ange Gabriel apparaît à Marie dans l'islam. à Paris, à Marie, dans l'islam. Vous avez, dans le Coran, vous avez une quarantaine de fois où le nom de Marie est cité. Vous avez une sourate complète qui est consacrée à Marie. Quand on dit une sourate complète...
C'est un grand paragraphe.
C'est si on fait le parallèle avec le Nouveau Testament, c'est un chapitre d'un évangile dans lequel vous avez des versets, et donc les sourates... Et donc c'est... Marie, il y a toute l'histoire de Marie qui est racontée à partir du pseudo-évangile de Matthieu et du proto-évangile de Jacques.
Mais ce qui m'étonne dans l'islam tel que je le vois, c'est que cette référence à Marie n'a pas changé le statut de la femme en islam.
Chez les catholiques, non.
À un certain moment.
J'allais jeter ça aussi. Il y a encore beaucoup à faire chez les catholiques.
Tout à fait, hein.
À commencer par nos églises, nos paroisses. Ça, c'est sûr. Mais en islam, il y a encore plus à faire pour la libération de la femme. En Arabie Saoudite, par exemple.
Oui, mais moi, je verrais l'image de Marie dans l'islam. Je ne pense pas qu'il faille en faire une anthropologie pour le visage de la femme dans la vie. L'image de Marie dans l'islam, c'est la femme qui s'est soumise au désir de Dieu d'une manière complète. À tel point que quand Mohammed est arrivé pour purifier la Kaaba, la grande pierre noire, le pèlerinage, il y avait une image de Marie et de Jésus. Il a interdit à ses soldats d'enlever cette image de Marie et de Jésus parce qu'elle était sainte. Et donc... pour les musulmans, Marie, c'est pas l'image de la femme, c'est l'image de la femme qui a donné naissance à Jésus, d'une manière avec la visite de l'ange Gabriel, comme chez nous.
Mais on Jésus, qui n'est pas fils de Dieu.
On pourrait dire qu'elle assure l'intériorité de la maison,
ouais,
la femme.
Oui, tout à fait.
Pour l'éducation des enfants.
Oui.
La femme apprend des choses essentielles aux enfants.
Bien sûr.
Et par rapport à son mari. Et puis alors surtout, la qualité d'accueil, l'hospitalité. Je crois que c'est essentiel en islam.
Tout à fait.
Mais la soumission à Dieu est devenue la soumission à l'homme.
Faudrait peut-être hésiter à faire des généralisations aussi hâtives.
Non, c'est une question, c'est pas une...
Faut pas mélanger le culturel et le cultuel.
Oui.
Et bon, vous avez la femme juive exactement dans la même position.
Oui, tout à fait, mais la femme chrétienne aussi, c'est une vraie question. Oui. On dit Marie, qu'on la suive, qu'on l'accompagne, que quelles que soient les positions que vous avez données par rapport à Marie, qu'elle soit devant, sur le côté, etc. La question est quand même, dans l'Église, par exemple, qu'est-ce que ça change pour le statut de la femme? Ben rien, ça la rend soumise. Le seul mot qui revient toujours, c'est soumis. Mais soumis.
Soumis. Attention au mot soumis. C'est soumis après son fiat. Elle a dit oui.
Oui, mais donc on attend de n'importe quelle femme dans l'Église qu'elle soit toujours soumise et qu'elle n'ait rien d'autre à dire que.
Vous avez des grandes saintes qui se sont rebellées contre la papauté ou ont aidé la papauté, docteurs de l'Église, qui ne se sont pas soumises au sens au contraire. Regardez Hildegarde de Bingen,
vous avez des grandes saintes. Quelques grandes exceptions.
Le nombre de congrégations religieuses féminines
exactement.
Qui ont leur autonomie complète. Ce sont des femmes qui les dirigent, ce ne sont pas des hommes. Il y a eu quelquefois des dérapages, des hommes qui sont imposés à des femmes, des congrégations féminines. Regardez ces fraternités de Saint François de Sales et Jeanne de Chantal. Ou François d'Assise et la jolie Claire. Il y a des amitiés de cet ordre-là qui ont fait des femmes qui étaient vraiment à leur place dans l'Église et qui ne réclamaient pas autre chose que d'être ce qu'elles étaient. Elles ont souvent demandé un peu plus de... comment dirais-je, de responsabilité. Mais on en a eu. Il y a des femmes qui étaient présentes au dernier concile. Bon, c'était la première fois. Mais au Vatican aujourd'hui, eh bien, il y a un bon nombre de femmes qui ont des responsabilités dans des dicastères romains.
Oui, il y a progrès quand même. Mais on n'est pas encore au point où les protestants... Donc, comment se fait-il que, justement, dans le protestantisme, ça a libéré la parole des femmes et leur...
Oui, pour nous, Marie est une image de liberté. Dieu l'a libérée en lui donnant la parole. Quand elle a dit « Je suis le serviteur du Seigneur », on lui a donné la parole et c'est d'elle-même. Donc, elle, pour nous, elle est figure de liberté.
C'est ce que je disais tout à l'heure, exactement de la même manière.
Oui.
Elle a dit oui.
Oui, ce sont des petites déviations qui ont tendance à aplatir un peu l'image de Marie à la soumission passive.
Oui,
soumission ne veut pas dire passivité.
Non. Et la femme a plus de place dans le protestantisme à titre égal avec les hommes. Parce que on considère que théologiquement, il n'y a pas de raison qu'une femme ne soit pas pasteur, et que beaucoup des écritures, il faut le remettre dans son contexte culturel de l'époque, et donc les femmes, on a eu, c'était difficile de faire passer le ministère féminin dans les années 50. Mais maintenant, il y a pratiquement autant de femmes pasteurs que d'hommes pasteurs. Et les laïcs aussi. Depuis la réforme, la laïque a toute sa place dans l'Église. Donc,
C'est curieux parce qu'effectivement, l'Église orthodoxe et l'Église catholique disent la même chose à l'envers. C'est-à-dire que c'est justement dans les Écritures qu'on trouve la raison qu'il n'y ait pas de femmes en responsabilité, parce que Jésus n'avait que 12 apôtres.
Parce que le collège apostolique n'était constitué que des apôtres.
Chacun voit un peu midi à sa porte, et on voit mal comment Marie peut faire bouger la chose.
Est-ce que c'est le rôle de Marie ?
Ça bouge. Ah ben si, dans la mesure où
c'est le rôle qu'on veut lui faire jouer, peut-être.
On lui donne une responsabilité dans le ciel, autant que ça serve. qu'on prie.
Connaissez-vous les religieuses de Reuilly ?
Les
diaconesses de Reuilly.
Oui. Connaissez-vous la communauté de Thésée ? Ce sont des tentatives importantes
d'égalité, oui.
Au point de vue de la spiritualité, qui n'est pas étrangère à la spiritualité mariale. J'ai appris beaucoup de choses en allant à Thésée, tout en étant marié, en fréquentant Frère Roger, avec lequel j'avais des relations fraternelles pendant plusieurs années. Il m'a appris beaucoup de choses sur Marie. Je me souviens, un jour, un 15 août, Assomption de Marie. Et ce jour-là, il y avait grande célébration, beaucoup de monde, mais le matin, très tôt, il y avait la communauté qui était dans une chapelle inférieure, là. Et cette communauté était réunie et m'avait demandé de célébrer l'Eucharistie pour la communauté. Mais j'ai commis apparemment une erreur qui s'est convertie en bonheur. Une erreur convertie en bonheur. C'est-à-dire, il y avait un soleil qui reluisait sur tous ces visages d'hommes. C'était vraiment du bonheur, le bonheur d'évangile, le bonheur d'heureuses nouvelles. Alors, au moment de la communion, je suis allé vers Frère Roger, vers les autres, pour donner la communion. Alors, il était surpris. Il m'a dit après, vous avez pris un risque. Alors je lui ai dit, oui, l'Eucharistie, c'est un risque. Dieu a pris le risque de devenir un homme par une femme que vous honorez ici. Alors il m'a embrassé ce jour-là. Et puis le frère Max Turian, qui est devenu prêtre pour diocèse italien, je ne sais plus lequel, il avait écrit quelque chose de merveilleux sur Marie. C'était des découvertes. Et le Concile Vatican II a largement approfondi ces découvertes qui étaient des semences d'avant le Concile déjà. Je me souviens de mon ordination sacerdotale par ce prince de l'Église, comme on disait à l'époque, le cardinal Gerlier. Le cardinal Gerlier, c'était un homme, un ancien avocat, qui avait le sens de l'humour. Le sens de la proximité des gens, tout en étant majestueux, Alors, le lendemain de mon ordination, mes parents étaient venus assister à l'ordination, et je les accompagnais en gare de Lyon-Perrache. Et en entrant dans le hall de cette gare, je vois le canal Gerlier, là, faisant la queue pour un billet. Alors il me reconnaît, il vient vers moi, il me dit « Cher ami, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider en me donnant 20 ou 30 francs parce que j'ai oublié mon porte-monnaie chez moi ?» Alors je lui ai fait le nécessaire. Et deux jours après, il m'invitait à l'archevêché de Lyon. Et il me dit, ben voyez là, voilà, il fait, je veux dire les choses bien simplement. Vous m'avez aidé là, ça prolongeait le jour de votre ordination. Parce que c'est une fête de pouvoir être ainsi dans les liens de Marie comme on l'est dans le diocèse de Lyon.
La présence de Marie, je voulais poser une question, parce que la maternité spirituelle, ça existe ou pas ?
On dit bien des parents spirituels, on dit bien pour des...
Parce qu'on dit toujours un père spirituel, oui, dans l'Église.
Oui,
mais on a un père spirituel.
Je veux dire que
mais est-ce qu'on peut avoir une mère spirituelle ?
Bah, ça dépend.
Autre que Marie, je veux dire.
Bah, vous avez des romanciers qui ont des
mères... Des romanciers, non, mais je parle dans le fonctionnement de l'Église elle-même, la transmission.
Au même image que père spirituel ?
Oui.
Bah, bien sûr. Vous avez des mères spirituelles dans le sens... si on dit père spirituel dans le sens de personne qui aide à réfléchir sur sa vie, à regarder, oui. Vous avez pas mal, même dans le diocèse, vous avez des femmes conseillers spirituelles. On ne dit pas mère spirituelle, on dit conseiller spirituel. Oui. De même pour les hommes, on dit conseiller spirituel.
Oui, mais ça c'est une question de terminologie, mais enfin,
bon,
la place...
Reconnue, vous en avez dans le diocèse.
Il y a des religieuses qui prennent maintenant...
Mais pas uniquement des religieuses, des laïcs.
Des laïcs aussi.
Des laïcs femmes qui sont conseillers spirituels.
Donc ça,
formé.
Est-ce que ça a un rapport avec Marie ou pas ? Parce qu'on sort du silence là. Ce n'est plus l'image silencieuse.
Non, je ne pense pas que c'est un rapport avec Marie du tout. Ah non, je ne crois pas.
Parce que on voit toujours Marie comme silence, priant, présence discrète. On n'a pas idée que Marie puisse être aussi une éducatrice.
Un esprit à travers ses attitudes, ses qualités de vie. Se manifeste en une certaine manière d'être, d'exister.
Oui, mais juste, je voulais juste essayer de voir si la parole de Marie avait eu de l'importance.
Elle a éduqué son fils, quand même.
Voilà, c'est quand même une éducatrice.
Vous verrez sur la même chose, ça serait pas mal.
De la foi.
Non ?
Je vois malheureusement qu'il est temps de conclure notre deuxième émission. On n'a pas fait le tour encore, mais nous aurons une troisième partie où nous essaierons de revenir beaucoup plus sur la position de l'Église orthodoxe par rapport au dogme et au développement de la mariologie au fil des siècles. Donc, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et merci à nos participants.
Merci.
Merci.